Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de novembre. Au sommaire, j'évoquerai la vie prodigieuse du musicien Camille Saint-Saëns avec Vincent Borel, qui vient de lui consacrer un roman. L'Irlande du Nord-Ouest, le comté de Mayo, avec deux auteurs, Masha Mehran, et puis un autre auteur que vous découvrirez. Et puis la montagne avec le grand romancier Jean-Christophe Ruffin. Et puis les couples américains non mariés vivant à l'envers, comme elle semble le dire dans une nouvelle, de l'étonnante Joyce Carol Oatt. Et pour finir, Entre deux mondes, qui est la vie de l'irrésistible Kenneth White, un écrivain voyageur écossais mais vivant en France depuis 1967 et toujours en pleine forme. Voilà, donc on commence par Camille Saint-Saëns. Et je dois remercier chaleureusement Vincent Borel, qui vient de lui consacrer une biographie romancée intitulée « Vertige de l'hélice » qui vient de paraître aux éditions Sabine Wispizer. J'ai été vraiment saisi par la vie prodigieuse de Charles Sannois, alias Charles Camille Saint-Saëns, que je découvre, que je redécouvre véritablement avec ce livre fort, enlevé. Camille Saint-Saëns est né à Paris en 1835. On a du mal à oublier que c'est au 19e siècle, comme ça avant, dans la première partie du 19e siècle, qu'il est né et qu'il est mort à Alger en 1921. Voilà pourquoi on fête l'anniversaire de sa mort cette année. C'est une œuvre musicale considérable à redécouvrir, auteur-compositeur fabuleux. Normand par son père, emporté deux mois après sa naissance par une phtisie que lui-même cherchera à éviter toute sa vie en multipliant les fuites vers les pays du soleil. Il fut élevé par sa mère, appelée maman Clémence, et sa grande tante Charlotte Masson, qui était plus fortunée et qui l'initia au piano, puisque son père était mort, donc la famille vivotait, mais grâce à Charlotte Masson, ils vont bien vivre. Et elle sera initiée au piano. Ce furent alors que maman Clémence pratiquait plutôt le dessin. Ce furent de très bonnes fées autour du petit Charles. À 2 ans et demi, le bambin montrait des dons extraordinaires pour la musique, un enfant possédant l'oreille absolue et capable de mémoire de jouer une sonatine qu'il venait d'entendre. Et à 10 ans et demi, 11 ans, en mai 1846, il sera invité à donner un concert chez Pleyel, celui qui sera connu pour ses fameux pianos, qui à ce moment-là était une salle de concert, elle existe toujours d'ailleurs. Et de mémoire, eh bien, l'enfant de 10 ans et demi jouera le concerto, un concerto de K238 de Mozart, un thème et variation de Handel, une toccata de Karl Brenner, une sonate de Hummel, un prélude et fugue de Jean-Sébastien Bach. Il va faire beaucoup d'ailleurs pour faire reconnaître Jean-Sébastien Bach. Et pour finir, le troisième concerto de Beethoven, un événement mondial considérable, vu son jeune âge et vu la prouesse qu'il démontre. Un futur grand pianiste était né. Pianiste, un pianiste capable de rivaliser avec le très célèbre Franz Liszt. Et au conservatoire de musique, il eut les meilleurs professeurs comme Boëly et Auber. Il commence à tenir un orgue à Saint-Séverin, dans l'église de Saint-Séverin, dans le beau quartier de Paris, quartier central de Paris, non loin du pont Saint-Michel. Et grâce à un accord entre maman Clémence, qui allait dans cette paroisse, et le curé de cette paroisse, eh bien, il va pouvoir commencer à tenir un orgue. Et à se faire à cet orgue qui demandait quand même quelques réparations. Mais après, on le retrouvera à l'orgue de Saint-Méry, qu'il quittera en 1858 pour tenir le grand orgue, un magnifique instrument, celui de la Madeleine, jusqu'en 1877. Et pour Franz Liszt, eh bien, c'était lui, Camille Saint-Saëns, le premier organiste du monde. Voilà. Et donc, dans les œuvres qu'il a jouées, on retrouve un concert avec orgue et instruments de musique. De 1861 à 1867, il avait effectué un bref passage à l'école Niedermeyer, connu, célèbre, comme professeur de piano, élu Gabriel Fauré, oui, et messager parmi ses élèves, qui vont eux aussi devenir de grands compositeurs. En 1889, alors qu'il est déprimé, mélancolique, une maladie de l'époque aussi, suite au décès de sa mère, qu'il a peut-être contaminé en l'embrassant alors qu'il revenait et qu'il l'avait embrassé, alors qu'une épidémie de grippe dite asiatique, peut-être de Mongolie, se propageant dans le monde. Donc vous voyez que les épidémies asiatiques ne sont pas toutes récentes. Elles datent déjà de cette époque-là, avant la guerre de 14, où il y aura la grippe espagnole, dite espagnole, qui fera beaucoup de ravages. Donc, mort de sa mère, qui va le déprimer beaucoup, et puis mort d'Albert Libon, qui était comme son père, n'existait plus, qui était un peu que son tuteur, voilà, et dont il était le petit prince, voilà. Des rapports non pas incestueux, mais quand même des rapports entre Albert Libon donc, et le jeune Camille. Il y a eu aussi la mort de ses enfants parce qu'il a été marié. Il a eu deux petits garçons, mais qui sont morts comme à l'époque. C'était malheureux, mais c'était comme ça. Bon, il n'a peut-être pas été un père exemplaire, mais voilà. Donc il décide en 1889 de quitter Paris et d'aller en Espagne jusqu'à Cadix, où il aurait embarqué sous le nom de Charles Sannois, il avait un passeport au nom de Charles Sannois, afin de pouvoir voyager en toute simplicité, parce qu'il était tellement célèbre que dès qu'on ne le voyait pas à Paris en train d'organiser un opéra, par exemple, eh bien, on courait après lui. Et donc, pour voyager en toute intimité, qu'il ne soit pas reconnu, mener une vie anonyme, il voyagea sous le nom de Charles Sannois, comme un représentant de commerce. Il alla jusqu'à Las Palmas, oui, on en parle en ce moment, malheureusement. Une vie, donc. Et c'est là que pour Vincent Borel, qu'il va rencontrer un jeune homme à la haute stature, Jaunet. Et ce sera pour le jeune Camille Saint-Saëns déprimé, une parenthèse solaire et sensuelle, en totale liberté, avec le soleil, la mer et des cavernes, et les cavernes pour témoins. Un artiste qui va renaître à lui-même sous l'intense lumière de l'Atlantique. Mais cette dernière partie est romanesque parce qu'elle ne figure pas dans les biographies. Dans les biographies classiques, je dirais, voilà. Donc, alors, voilà donc pour la vie et l'œuvre de Camille Saint-Saëns qu'il faut vraiment redécouvrir si vous ne le faites pas pour l'anniversaire de sa mort. Et parce que c'est vraiment quelque chose, il est vraiment pionnier en la matière, on est impressionné par la qualité et la modernité de sa musique pour l'époque, mais qui reste encore aujourd'hui. Après donc Camille Saint-Saëns, j'ai prévu donc de vous parler de l'Irlande, de revenir en Irlande, dans le nord-ouest de l'Irlande, qui fait toujours partie de la République irlandaise. Je vous avais parlé le mois dernier du roman « Les sœurs du Titanic » de Patricia Falvey, qui commençait dans le Donegal, c'est-à-dire au nord, vraiment au nord-ouest de l'Irlande, où Nora et Delia étaient originaires, avant d'aller faire carrière en Amérique, à New York et au Texas. Et c'est pour ça qu'elles avaient pris le Titanic, mais heureusement, elles ont survécu au drame du Titanic. Aujourd'hui, je vous présente deux romans qui se déroule en grande partie dans le beau et vaste comté de Mayo, plus au sud par rapport au Donegal, mais proche du Connemara, que j'ai eu le bonheur de visiter. Et nous sommes dans ces romans à la veille de la guerre de 1914, entre Westport et Dublin, en tout cas pour le premier. Pas pour le second, mais pour le premier, qui s'intitule « Les filles d'Ennis Morr » et qui est de Patricia Falvey. Voilà, on retrouve Patricia Falvey et que je viens de lire en press pocket. Vous pouvez donc le lire en press pocket. Le deuxième roman, je vous en parlerai après, s'appelle « Une soupe à la grenade » et il est de Marsa Mehran, publié par les éditions Philippe Piquier. Une auteure iranienne venue se réfugier dans cette Irlande-là et qui met en scène... Voilà, j'arrête là. Alors je reviens donc au premier, « Les filles d'Ennis Morr » de Patricia Falvey. Elle met en scène deux filles qui n'appartiennent pas au même monde. À l'aube du XXe siècle, nous sommes donc à l'aube du XXe siècle, il y aura donc la guerre de 14, mais aussi des événements qui vont se dérouler à Dublin. Il y a Rosie Killen, 8 ans, fille de métayer, destinée à servir la famille Ennis. Ça s'appelle Ennis Morr parce qu'ils sont les comtes, enfin les seigneurs de cette région, du comté de Mayo. Donc une grande demeure, tout ça, des biens et puis, des serviteurs qui les servent. Il y a une séparation entre les nobles et les serviteurs. Comme les femmes de sa famille, de la famille de Rosie Killen, avant elle, il y a vraiment deux mondes différents. Et puis Victoria, 7 ans, c'est la fille de Lord et de Lady Ennis. elle est destinée à un beau mariage, bien sûr, c'est une façon de faire, que de bien marier les filles pour apporter des gains dans la famille et puis des échanges fructueux. Et leur rencontre, une rencontre soudaine comme ça, de leur rencontre naîtra une indéfectible et profonde amitié, comblant la solitude de Victoria, parce qu'elle a bien un frère, mais qui est bien, bien plus grand, donc se trouve seule, et instruisant Rosie, parce qu'elles vont apprendre en même temps que Victoria à lire, à écrire et parler comme les gens de la bonne société. Mais les fillettes vont vite comprendre que leur amitié va à l'encontre des conventions de la société victorienne. Voilà, nous sommes dans cette société victorienne, corsetée par une morale rigoureuse et une hiérarchie sociale implacable. Alors, je ne vous dévoile pas toutes les péripéties, parce qu'elles seront nombreuses. Rosie et Victoria vont grandir, être séparées. L'une, Rosie, se retrouvera à Dublin, au moment où il y aura des jeunes étudiants qui vont se révolter contre les Anglais et l'aristocratie. Et donc, elles vont trouver la force de lutter contre la marche de l'histoire qui menace de les déchirer. Voilà. C'est vraiment un beau roman en livre de poche, pas un gros roman, mais un roman très très bien fait, parce que c'est vrai que Patricia Falvey s'intéresse beaucoup à l'histoire, donc elle ne raconte pas n'importe quoi. Elle a des personnages qui lui permettent justement d'exposer cette époque déchirante. Pour aborder le deuxième roman, Une soupe à la grenade, je dois vous présenter son auteur, Marsa Mehran. Elle vient de l'Iran. Elle n'a que des souvenirs du plus lointain de son enfance, car elle n'a que 2 ans lorsque ses parents quittent le pays en 1979. Fuyant la violence et l'insécurité de la fin du régime du Shah et les débuts de la Révolution. Ils émigrent en Argentine, où ils ouvrent un petit restaurant de cuisine du Moyen-Orient. Ça, c'est très important, parce qu'il y aura là des souvenirs très très précieux pour la jeune Marsa. De même que dans le roman La soupe à la grenade, on retrouvera 3 sœurs qui vont ouvrir un restaurant. Je vous en parlerai après. De l'Argentine, ils sont poussés, parce que c'est la dictature, ils vont devoir partir à Miami, en Floride. Chassés à nouveau, ils vont repartir. La petite Marsa sait déjà l'anglais, car à 4 ans, elle est entrée dans une école écossaise à Buenos Aires. À 6 ans, elle parle couramment le farsi, l'anglais et l'espagnol. Et en 1992, la famille part pour l'Australie. Elle se passionne pour la musique, suit les cours au conservatoire d'Adélaïde et se destine à une carrière de pianiste. Mais les choses vont changer, car en 1997, elle rentre aux États-Unis. Elle a 20 ans. Et rencontre un barman d'origine irlandaise. Elle va vivre avec lui en Irlande, en Australie, puis revenir à New York. Elle aura beaucoup de difficultés pour avoir un passeport de résident, ce qui fait qu'elle est obligée un petit peu de naviguer à droite ou à gauche. Une ville à New York, une ville où cohabitent tant de cultures différentes. Alors qu'en Irlande, ce n'est pas la même chose. C'est ce que l'on découvre dans son roman. Mais elle vivait en Irlande avec son mari dans le comté de Mayo. Voilà pourquoi je l'ai rapproché de l'autre roman, Denis More. Mais elle était regardée comme une étrangère, une basanée. Elle quitte donc ce pays pour vivre à New York et écrire son premier roman qui s'intitule « Une soupe à la grenade », où la nourriture occupe une place centrale, car elle condense les souvenirs les plus précieux, les plus heureux de l'enfance de cette grande romancière. Cuisinier, dit-elle, c'est une façon parfaite d'exprimer son amour. Voilà. C'est en 2005 qu'elle publie ce roman singulier, considéré comme un best-seller international, édité par les éditions Philippe Piquier. Un deuxième roman va paraître en 2008, mais il n'est pas traduit en français. Il s'appelle « Rosewater and Soda Bread », non traduit en français. Tristement, oui, et mystérieusement, on ne sait pas trop bien pourquoi, comment, elle est décédée en 2014, alors qu'elle s'était isolée en Irlande pour écrire à nouveau un autre roman, à Le Canevé, j'ai recherché sur une carte, mais je n'ai pas trouvé, mais je sais à peu près où ça se situe. Elle s'était isolée en Irlande, dans ce comté de Mayo, dans un petit cottage, pour écrire un autre roman. Notre livre, elle avait 36 ans. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Alors j'espère qu'un jour on pourra traduire en français « Rosewater and Soda Bread », que Philippe Piquet prendra ce risque-là. Alors, dans ce roman, le premier roman de cet auteur iranien, il y a trois jeunes sœurs ayant fui l'Iran au moment de la Révolution. Et elle trouve refuge dans un petit village d'Irlande, pluvieux et replié sur lui-même. Et elles ouvrent le Babylon Café. Voilà, un beau nom. Bientôt, les effluves ensorcelants de la cardamone, de la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleverse la tranquillité de Balina Croag. La cuisine persane des trois sœurs, c'est Marjan qui est l'aînée et qui dirige la cuisine, qui joue le rôle de mère aussi pour les deux autres sœurs qui s'appellent Bahar et Leila. Et donc, peu à peu, les habitants plutôt hostiles au départ de ces étrangères qui viennent s'installer et qui ouvrent un bar, le Babylon Café, mais les effluves, les délicieux rouleaux de dolmas à la nette et les baklavas fondant sur la langue, des recettes qui sont jointes dans ce roman. Chaque chapitre commence par une recette que vous pouvez à votre tour faire dans votre cuisine. Arrosés d'un thé doré infusant dans son samovar en cuivre, font fleurir leurs rêves et leur donnent envie de transformer leur vie. Et ce qui va se passer, il y a des méchants, mais il y a aussi des bons. Ainsi, Estelle Del Monico, d'origine italienne, qui a épousé un homme de là, qui est mort mais qu'elle aime encore, et qui sera un beau personnage, propriétaire des lieux, qui va les soutenir efficacement. Il y aura aussi le père Mahoney, très influent, qui sera le premier séduit par cette cuisine et ce thé, ce qui va entraîner les autres habitants de ce petit village. Voilà, s'y mêlent le garme et le sar, c'est-à-dire le chaud et le froid, tristesse et gaieté, en une alchimie à l'arôme envoûtant d'eau de rose et de cannelle. C'est sans aucun doute ce roman La soupe à la grenade, c'est sans aucun doute un des régals de cette rentrée littéraire de septembre. Découverte aussi que j'ai fait dans ce roman, en lisant ce roman, c'est la situation du Greg. C'est parce que on est à l'aube pointée sur la baie de Clèves, donc on n'est pas très loin de cette belle baie de Clèves. Et au sud de cette belle baie de Clèves se trouve une montagne, le Croag Patrick, c'est-à-dire le mont Patrick, qui mesure 763 mètres et qui est en hommage à Saint Patrick, parce que Saint Patrick aurait débarqué là quand il était allé en Irlande. Voilà, donc un roman vraiment très très intéressant et passionnant à lire. Et il écoute de la musique, celle de Camille Saint-Saëns. J'ai choisi de vous faire écouter la sonate numéro 1 avec Renaud Capuçon, le grand Renaud Capuçon au violon, un violon merveilleux, et Bertrand Chamaillou au piano. Thank you. Voilà, une très très belle musique. J'espère que vous avez adoré comme moi ce beau violon. Et puis cette belle, très belle musique moderne, on pourrait dire, de Camille Saint-Saëns. Nous avons la chance de vivre et d'aimer vivre dans un espace montagneux, que ce soit dans le Bugey, que l'on peut admirer de chez nous, le Doubs, le Jura, ou encore dans les Vosges, berceau de ma jeunesse. Ce fut le cas, en tout cas, pour Jean-Christophe Ruffin, parisien mais grand voyageur qui habite l'été dans une maison proche des Condamines, dans les Alpes, non loin de Chamonix. Un espace qu'il connaît vraiment très bien depuis longtemps. Et grâce à son ami, lui aussi grand aventurier, Sylvain Tesson, il vient de réaliser un roman au goût de la montagne qui s'intitule « Les flammes de pierre » et qui vient de paraître chez Gallimard. Un hommage aussi à tous ces guides de montagne qui aiment et qui font aimer cet espace libre et exaltant, parfois au péril de leur vie. Lorsque le mauvais temps survient soudain et trop vite, ce qui peut provoquer un drame ou des drames, nous en avons quelquefois des échos. Ce nouveau roman se place dans la lignée d'un Gaston Rébuffat ou d'un Frison Roche, qui n'était pas originaire de la montagne au départ, le dernier Frison Roche, mais qui ont fait de très beaux romans qui ont bercé notre jeunesse. En tout cas, celle aussi de Jean-Christophe Ruffin, et qui nous donne dans ce nouveau roman, Les flammes de pierre, l'impression qu'il a rencontré l'un de ses guides qu'il appelle Rémi. Ce dernier a été chargé de recevoir Laure et de la guider, une jeune femme belle et mystérieuse, une Parisienne. Et ensemble, Rémi et Laure vont partager un instant, un moment inoubliable, au sommet de Croisse-Bolée. Puis bien sûr, ils se sépareront, chacun reprenant sa vie coutumière. Mais Rémi connaissait trop la force de cette communion pour y mêler les gestes minuscules de l'amour. Voilà, est-ce que c'était de l'amour ou autre chose ? Devenu guide séducteur et papillonnant d'une cliente à une autre sans s'apesantir, il comprend que cette fois-ci, ils ont vécu un désir partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur et sa grâce. Ils retirèrent donc les pots de phoque des skis, réglèrent les fixations pour la descente et raccourcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l'esprit plein d'un moment qu'il était inutile de faire durer, tant ils étaient saturés d'un temps, ce temps était saturé d'infini, ils s'élancèrent dans la pente. Voilà. Mais une fois séparés, Laure retournée sur Paris, où elle a une entreprise, et puis lui resté à Chamonix, dès lors Rémi refuse toute autre course pour se garder pour Laure. Lorsqu'elle avait le désir ou le besoin de le revoir et de faire d'autres ascensions du massif montagneux avec lui. Il devient une sorte de loup solitaire. Grâce à un ami, il ira à Paris, là où vit Laure, pour mieux la connaître et même l'aimer. Mais je vous laisse découvrir cette histoire, parce que cela ne se passera pas comme il l'espérait. Lui comme elle, d'ailleurs. Sachez seulement que elle aussi, après leur séparation, elle fera un geste pour se rapprocher de lui, parce que malgré la distance, il y a quelque chose en elle, une flamme qui brille doucement. D'où le titre « Les flammes de pierre », mais aussi qui est un lieu, les flammes de pierre, où il se passera des choses. Donc, à la fin de ce roman exaltant, ils vont se retrouver, et puis il y aura un drame qu'ils vont partager et qui les rapprochera éternellement. Voilà. Donc, voici pour « Les flammes de pierre » de Jean-Christophe Ruff. J'ai un quatrième livre que je veux vous présenter. C'est celui d'une auteure, d'une américaine brillante qui s'appelle Joyce Carol Oatt. Alors que paraît un grand roman, la nuit, le sommeil, la mort, les étoiles, livre de 924 pages, édité par Philippe Ray, qui est son éditeur. Je vous le présenterai en décembre, mais aujourd'hui, en lisant d'elle un recueil de nouvelles qui s'intitule « Beau jour ». « Beau jour », c'est à la fois le titre de ce recueil de nouvelles, de 11 nouvelles, mais c'est aussi le titre d'une des nouvelles qui s'appelle. Il y en a une autre qui s'appelle « Fleuve bleu », voilà, et puis dans le Big Burn, en tout cas, il faut vraiment lire et découvrir. Et je pense que par une nouvelle comme ça, par ce livre, édité par Philippe Ray également, vous découvrirez son style d'écriture d'une effervescence unique. C'est vraiment bouleversant et du grand art pour parler et mettre en scène des personnages en quête d'amour et de reconnaissance, destinés à méconnaître ceux qui leur sont les plus proches, des drames de l'intime tapis dans l'ombre qui n'attendent qu'une étincelle ou une rencontre pour se réveiller. Entre choix audacieux et intrigues en apparence ordinaires, mais je peux vous assurer que l'on est entraîné chaque fois dans une histoire particulière et singulière, et dans un lieu différent. Joyce Carol Oatt manie une prose aiguisée et pose la seule question qui vaille: les liens que l'on noue, qu'ils soient amoureux ou amicaux, sont-ils voués à se rompre tragiquement? On pourrait le croire en la lisant. Mais il faut ajouter qu'ils sont limités dans le temps. C'est là, nous avons des vies parfois trop brèves. Il y a des moments où, même mariés, on a tendance à regarder un peu à côté et de découvrir une autre vie plus pleine, semble-t-il. Donc, beau jour est un recueil de 11 nouvelles qui exprime bien toute la culture artistique ou littéraire, et littéraire on pourrait dire, car les deux sont vraiment en synergie, de cette grande romancière qui navigue d'une rive à l'autre, que vous ne pourrez plus oublier ou méconnaître après cette lecture exemplaire des beaux jours. Il y a aussi de l'ironie, et c'est ainsi que, dans Les Beaux Jours, un grand artiste peintre joue un jeu dangereux auprès de l'une de ses jeunes modèles, tandis qu'au fur et à mesure s'érode la frontière entre érotisme et abus. Il a tendance à croire, et c'est signé, c'est un artiste connu Balthus est signé Balthus avec ironie, comme si c'était Balthus qui était le maître de peintre, le maître peintre, l'artiste qui est tyrannique vis-à-vis de ses modèles qui lui servent pour faire ses tableaux. Et il a tendance un petit peu trop à abuser justement d'elles et à les rester, et les rendre prisonnières. Il vit dans les Alpes, on ne sait pas trop bien où. Il était en Suisse, lui, mais voilà. Donc, vous trouverez comme ça de l'ironie. Mais ça montre simplement que Joyce Carol Oates est vraiment un grand écrivain, qu'elle a une très très grande culture et qu'elle exprime vraiment très bien dans chacune de ses histoires différentes. Alors après elle, eh bien, il me faut passer à aussi un autre grand auteur, Entre deux mondes, d'une autobiographie irrésistible et passionnante de 460 pages, oui, de Kenneth White, qui vient de paraître aux éditions Le Mot et le Reste. Merci à cet éditeur, qui le connaissait depuis quelque temps déjà, d'avoir eu cette opportunité, cette volonté de traduire, enfin d'exprimer, de laisser à Kenneth White le soin de se raconter dans ce livre, ce grand livre, Entre deux mondes. Kenneth White, il est né en Écosse et il vit en France depuis 1967. Je vais dire pourquoi. Fondateur des concepts de géopoétique et nomadisme intellectuel, qui se considère fondamentalement comme un loup solitaire qui, de temps à autre, interrompt son isolement, ses études, car il étudie beaucoup, c'est un grand, grand travailleur, intelligent, mais aussi grand travailleur, par les coups d'éclat de son activité publique. Et ceux-ci ont été très nombreux tout au long de sa longue vie engagée. Depuis son enfance heureuse, il est investi par la lecture de livres d'occasion achetés grâce à ses petits boulots. Il est livreur de lait et de journaux, ou des cadeaux, parce que sa mère, qui le soutient, prétend que c'est un jeune érudit, et des gens qui possèdent des livres, qui s'intéressent à la nature, à la philosophie, bien, des gens font des cadeaux de livres. Voilà, ce qui l'enrichit, bien sûr. Il comprend alors que l'on n'est pas limité à sa personne, ça c'est très important, pas limité à un quelconque contexte idéologique et social, qu'un immense domaine de possibilités s'étend devant lui, devant nous, voilà. Voilà pourquoi il écrit ce livre, il nous interroge, nous aussi, à notre tour, sur ce monde entre deux mondes, sur cette vie entre deux mondes, ce qui le met en route et en quête d'une ouverture entre deux mondes. En 1954, il entame ses études à la Faculté des Arts de Glasgow, petite ville ecclésiastique devenue enfer de la révolution industrielle, et qui fut pour le jeune White un poste d'observation riche en réflexions. Et on découvre toutes ces réflexions. Il travaille, il réussit déjà à faire... il y a des concours, et il participe à ces concours et réussit à avoir les premières places. Donc il fait des études. Et puis, il va réussir à avoir deux bourses, justement, l'une pour aller, ils doivent choisir entre deux, enfin pas entre deux, mais deux bourses. Eh bien, il en prend une allemande, une bourse pour la littérature allemande, et c'est comme ça qu'il va se retrouver à Munich, qu'il va vivre toute une année à Munich et lire, bien sûr, la littérature et la philosophie allemande. L'autre, eh bien, c'est Paris. Paris qui va le séduire. Ben, il avait lu Victor Hugo, il avait lu bien sûr Rimbaud, qu'il adore, il avait lu aussi d'autres auteurs. Et puis il a quelques écrits et récits, poèmes aussi, qui vont être édités parce qu'il séduit Maurice Nadeau et Pierre Léry, qui vont l'éditer. Donc, alors qu'il n'est pas édité en Angleterre, encore moins, ni en Écosse pour le moment, eh bien, c'est la France qui va le décider à devenir vraiment écrivain. Et professeur aussi, il sera. Alors, on le retrouve en France, à Montparnasse, où il retrouva Marie-Claude, qui devint sa complice pour une vie pleine d'aventures. Ils vont vivre vraiment beaucoup de choses ensemble. Elle est à la Sorbonne, prof, fait en licence d'anglais. Elle deviendra prof d'anglais. Et on la verra ici ou là dans une des écoles ou des collèges. Elle prépare un doctorat. Et puis on les voit vivre à Meudon, où ils découvrent une maison, un atelier. Et puis en Ardèche, où ils vont vivre 7 ans en Ardèche, dans ce désert français, restaurant une maison en pierre. Et puis, même s'ils conservent encore cette maison de l'Ardèche pour la prêter à des amis, ils vont découvrir les Pyrénées et s'installer à Pau. Une très très belle ville. Et on les verra voyager entre Pau et Paris, lui pour ses éditions, pour ses études. Il veut devenir prof ou adjoint prof, c'est pas évident pour lui, parce qu'il n'est pas encore nationalisé. Enfin, il n'a pas encore la nationalité, la binationalité d'Écossais et de Français comme il l'obtiendra. Mais étant à Pau, on va en mai en 1968, eh bien, c'est là qu'il va vivre la révolte de mai 68, avec les étudiants sur place. Mais il comprend que ceux-ci ne sont pas vraiment préparés à cette révolte. Donc, après coup, il va continuer son bonhomme de chemin. Mais il fit d'autres errances, et c'est ça qu'on découvre avec grand, grand plaisir. Ce sont ces autres errances dans ce livre Entre deux mondes de Kenneth White, qui vient de paraître chez Le Mot et le Reste. On découvre d'autres errances à travers le monde, sur la piste de Bachot, voilà, un grand poète qu'on connaît nous aussi, mais qu'il découvre et qu'il explose, explose, en remontant au nord du Japon, dans les terres gelées du Labrador aussi, ensuite, le Canada et le Labrador, ou dans les archipels tropicaux. De quoi dessiner un paysage mental inédit. Il nous livre, Kenneth White, il nous livre ici toute l'étendue d'une vie qu'on croirait romancée, tant elle est ouverte aux quatre vents du monde, à l'image de son œuvre. Avec une littérature riche et récompensée par avec une œuvre littéraire riche et récompensée par plusieurs prix littéraires. Ils vivent en Bretagne avec devant eux le Morbihan, les Landes de l'Envaux et les Montagnes Noires, une péninsule escarpée qui leur convient tout à fait. Tous les deux, bien sûr, ils sont toujours ensemble. Je vous en reparlerai le mois prochain parce que, en commentant deux de ses œuvres, un récit qui s'intitule « La route bleue » et qui vient de ressortir chez Le Mot et le Reste, où on trouve sa philosophie et son esprit de nomadisme, et puis des poèmes aussi. Voilà, donc je pourrais. Alors je vous tenais à finir en vous disant un passage de son gros grand livre « Entre deux mondes », autobiographie de Kenneth White, édité par Le Mot et le Reste, que vous pouvez trouver bien sûr en librairie. Ouvrage traduit avec le concours du CNLL, voilà, Centre National du Livre. Eh bien, lorsque, voilà ce qu'il dit, lorsque mon navire, appelons-le Okeana, quitta le port cosmopolite de Glasgow, il contenait une cargaison d'histoires, de livres, y compris du mal-être et de la maladie, mais aussi une force supra-historique. Je savais qu'il suivrait un itinéraire capricieux, plein de turbulences et de zones de fracture. En créant malgré tout, j'en avais la certitude, un rapport original à l'univers et un espace-temps qui exigerait beaucoup de cartographie. Et c'est vrai qu'on a tendance à reprendre un plan, des plans du monde pour voir ces voyages, ces itinéraires, ces découvertes. Un critique écrivait un jour que j'étais un activiste social qui interrompait souvent ses activités par de longues retraites. De retraites, c'est-à-dire des études, hein, des méditations sur justement ces rencontres. Ces livres. Luc, c'était vraiment un rat de bibliothèque. Donc, partout où il se trouvait, il allait fréquenter les bibliothèques. Il dit que sa description serait sans doute plus exacte si l'on en inversait les termes. Je suis fondamentalement un solitaire qui, de temps à autre, interrompt son isolement par les coups d'éclat de son activité publique. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le mois prochain, je vous reparlerai de la route bleue. Il a obtenu le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française en 1985, après avoir été récompensé du prix Médicis étranger en 1983 pour la route bleue. Donc, il est à l'origine du concept de nomadisme intellectuel et fonde l'Institut international de géopolitique en 1989. Voilà, donc, je peux m'arrêter là, en vous proposant de vous retrouver le mois prochain en décembre pour vous parler, reparler de Kenneth White, mais aussi de Joyce Carol Oates pour son grand roman que je vais lire sans tarder. Mais entre-temps, je vous signale que dans Beaux jours, l'autrice prolifique livre une fois de plus une sélection d'histoires savamment écrites aussi puissante que toutes celles qu'elle a produites au cours de sa longue et distinguée carrière. Voilà, c'est un avis d'un critique éclairé qui dit que vous pouvez lire pour vous faire à cette écriture, je dirais presque fabuleuse. Dans Beaux Jours, l'autrice prolifique livre une fois de plus une sélection d'histoires, 11 histoires, savamment écrites, aussi puissantes que toutes celles qu'elle a produites au cours de sa longue et distinguée carrière. Oui, c'est une façon, une nouvelle façon de la retrouver et de l'adorer, parce que on peut pas la lire sans l'adorer, cette Joyce Carol Oates Beaujour. Voilà, donc je vous dis au mois prochain. À bientôt, bonne lecture.